Alors, sur Hanouka, enfin, il y a encore un petit peu de chiffres. Hein.
Il y a Glazerson et Sabouga.
Ouais. Hein? De rien compter des deux.
Alors, regardez.
Je ne savais pas que Glazer y avait un fils.
Il y a, dans la fête de Hanouka, le principe de la victoire du spirituel sur le matériel. Hein, c'est ça, la victoire de la lumière.
Voilà.
Prenez. Prenez. L'Haftara de Kippour.
Yona.
Non, du matin.
Ah, du matin.
Solo.
C'est Isaïe, chapitre 58, verset 8.
Syria.
Alors,
Haftarot. Et 15, Massé.
Haftarot.
1305, bravo, Khazak. Alors,
vers la fin, tout ça.
1305, je dirais même 1306.
Voilà, il y a 57, c'est ça, 1305, ça
1306. C'est le verset 8. Regardez, c'est facile.
Ah, voilà. Ah oui, magnifique celui-là.
Magnifique ça.
Oh là là, quel bon.
Alors, je fais une petite introduction. Une petite introduction qui avec aucun chiffre sur l'introduction. La fête de Hanouka, c'est la fête des Kohanim.
Ah oui.
Parce que c'est la victoire des Kohanim sur les Kohanim. Hein? Pardon? La fête des Kohanim sur les Kohanim. Zelumadze Asa Elokim. Dieu fait toujours des choses l'un en face de l'autre. On trouve dans le positif ce que se retrouve dans le négatif. Hein? Le Esav, l'homme de la guerre, Gematria Shalom. Donc ce que je trouve dans le positif, je trouve dans le négatif. Alors regardez, le mot, la Grèce.
Yavan.
Est-ce que Yavan, c'est toujours tout négatif? Non, ça peut être aussi positif. Quand la beauté de Yavan va se retrouver avec l'éthique de Shem. Yaft Elokim le Yafet, Vishkon Baol le Shem. Yaft, c'est beau Yafet, mais il faut qu'il soit orienté dans la tzitkout. Hein, celui qui va tenir, Yosef, c'est celui qui tient la tzitkout. Hein. Yosef, il va tenir devant l'épreuve. Comment s'appelle l'épreuve de Yosef devant la beauté de la femme de Potiphar? S'appelle Nissayon. Hein? Nissayon. C'est quoi Nissayon? C'est Nes Yavan. Le miracle qui dépasse la Grèce. Parce que le miracle qui dépasse la Grèce, c'est de savoir orienter pour ne pas se laisser aller dans la beauté. C'est quoi la beauté? C'est Noï. C'est Yavan à l'envers. Noy, Yavan à l'envers. Alors qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il y ait le Nes.
C'est ennuyant.
Alors, je veux qu'il y ait le Nes qui va permettre à Yosef Hatzadik, et dans cette période, on lit les parachas qui parlent de Yosef Hatzadik, le Tzadik qui va orienter Yavan pour avoir Tzion.
Oh, elle est belle celle-là. Hein?
Elle est belle celle-là.
Hein?
Et Tzion, c'est lui qui c'est Yosef, parce que Tzion Gematria 156. Gematria Yosef.
Tzion, c'est.
Hein?
Ça veut pas marquer la marque.
Maintenant.
Il est déjà marqué.
Maintenant, maintenant, tout ce lien avec Tzion, Yosef, etc. Yosef. C'est 6 fois 26, d'accord? Le 6 étant la lettre, le chiffre de la Torah orale. Hein, c'est important, la Torah orale. Parce qu'il y a 6 ordres, hein, de la Mishnah, Shishasita Mishnah, et dans les 6 ordres, vous avez 60, 60 traités. Donc 66, qu'est-ce qu'il y a en face ? Yavan. Or la Grèce, les Grecs voulaient enlever la Torah aux enfants d'Israël. Les Ashkiran Torah Techa. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient ? Non, mais surtout, ils voulaient nous faire oublier la Torah. Et surtout contre la Torah orale. Alors, puisque la Torah écrite, une partie des Grecs était pour, puisque Ptolémée avait fait traduire la Torah en grec.
C'est normal, elle s'appelait Ptolémée.
Mais leur problème, c'était la Torah orale. Et c'est pour ça que la fête de Hanouka, c'est la fête de la Torah orale. On allume 36 lumières. 36 comme les 36 traités du Talmud, commentés dans le Talmud Bavli. 36. Donc, c'est 36 chandelles.
Après, vous venez dire 60.
60, c'est l'ensemble de tous les traités du de Mishnah.
Mishnah. Ah,
maintenant, vous avez, par exemple, dans le Zeraïm, P.A. Il n'y a pas de Gemara. Dans le premier, vous avez seulement Brachot. Et tout le reste, ce n'est pas de Gemara Bavli. Au niveau Bavli en Babylonie, vous avez dans Zeraïm un seul traité. Et dans Taorot, par exemple, un seul traité, Nida. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas usité en Babel. En Eretz Israël, à Talmud Yerushalmi, vous avez un traité PA, Bikurim, etc. Oui. Mais sinon, on n'a pas. Et sinon, les autres. C'est important de parler de ça aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est le Sioum de Maseret Menachot, dans Dafayomi. Oui, c'est le jeu. Demain, ça commence Rouline.
Demain,
ça commence Rouline. Donc, c'est surtout la Torah chez Baalpé. Or, maintenant, regardez comme c'est phénoménal. Ce qui les gênait surtout, c'est l'acceptation de la Torah chez Baalpé. Et parmi les enfants d'Israël, il va y avoir des gens, à toutes les époques, vous avez eu des gens qui remettaient en cause la Torah chez Baalpé.
Les Sadducéens.
La clé à cette époque sont les Sadducéens. Les Sadducéens qui s'opposent aux pharisiens. Et Sadducéens, alors il y a Sadducéens et les Baitosim, Béthuséens. Les Sadducéens, c'est quoi ? Ce sont des prêtres. Sadducéens, en hébreu, Tzedoukim. Ils viennent de quoi ? Tzedoukim, de Tzadok. De Tzadok à Kohen. Celui qui était à l'initiative de cela, c'était l'élève de Aphtalion, Shemaïa et Aphtalion, vous vous rappelez ? Aphtalion. Et Aphtalion, je voulais vous faire un cours d'histoire aussi sur les Hanouka, c'est phénoménal. Mais Aphtalion, bon pour nous, ça sonne un peu grec comme ça. Mais Aphtalion, c'est le nom d'un général de Alexandre le Grand, qui avait fait la guerre à Séleucos. Séleucos, qui est le père des Séleucides. Les Séleucides avec qui on a le problème de Hanouka. Et donc, il avait fait la guerre. Séleucos, à la différence de Ptolémée et de la plupart des autres généraux, lui, il n'a pas eu de territoire. Il était général des cavaleries. Alors que tous les autres généraux, ils se sont partagés part de gâteau de territoire. Séleucos, au début, il n'a pas de terrain. Et il va faire la guerre à Aphtalion. Non, excusez-moi, c'est pas Aphtalion, excusez-moi. C'est Antignos, excusez-moi.
Ah.
Oui, excusez-moi. Ça change tout.
Il n'avait pas de terrain, donc...
C'est Antignos, normal. Antignos.
C'est le cos, à cause du
cos. Oui, c'est ça. Antigone, oui. Antignos Issocho, dans la Mishnah, c'est le grand maître qui suit Shimon HaTzadik. Donc, autrement dit, c'est la Torah chez Baalpé. C'est le début de la Torah chez Baalpé. Passe par un maître qui s'appelle Antigone. Antigone, qui est le même nom que le général d'Alexandre le Grand, qui s'oppose à Séleucos.
C'est pas le Antigone biblique. C'est pas le Antigone de la tragédie grecque. Ça n'a rien à voir.
Non, je pense pas. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe donc? Les Tzadokim, les Sadducéens, viennent de Tzadok à Kohen, qui était élève de Antigone Issocho, parce qu'il lui avait dit, quand vous servez Hachem, il ne faut pas le servir avec l'intention de recevoir un salaire. Il faut le faire à l'échem Shemaïm.
Raison.
Alors ils ont dit, ah, il n'y a pas de salaire. Alors ils ont tout jeté. Lui et Beit Osim. C'est Beit Osim, il y a un grand problème, c'est parce qu'on retrouve la Mishnah à Beit Osim, Et dans l'histoire, on les trouve. Béthuséen, c'est quoi? C'est Beit Essaim, c'est les Esséniens.
Les Esséniens, déjà à cette époque.
C'est ça. Qui sont à l'origine des premières sectes qui vont donner chrétiens après.
Ouais.
C'est phénoménal.
C'est beau ça.
Il y a des choses. Il y a des choses.
On va nous faire un cours sur ça.
Hein? C'est,
oh, mais ce sera un cours d'histoire.
Avec les histoires, un cours d'histoire.
Non, mais un cours d'histoire.
Alors, c'est
ça. Change un petit peu.
La scène.
Un cours d'histoire.
Sur. Adrien et ses copains, ils sont doux, ça fait la scène.
Ah non, 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 la scène, non, c'est pas par les Seigneurs. Non, non, c'est ça. Je crois pas, non, non.
Par contre, ils ont essaimé dans toute la région.
Non. Alors maintenant, donc c'était une petite page historique.
Donc ça, c'est Cohen contre Cohen, donc.
Donc alors donc c'était les Cohenim qui ont été à l'initiative et eux qui étaient contre la Torah chez Baal Peh, etc. Ils ont dit on va se révolter. Et donc celui qui va se révolter contre eux, c'est aussi un Cohen. Matityahu ben Yochanan Cohen Gadol. Et donc c'est pour ça que c'est un tikkun. Le tikkun, pardon. Cohen contre Cohen.
Attends, il s'est révolté contre eux, mais ils ont quand même perduré, les Sadducéens.
Mais pourquoi il y a eu des premiers...
Les Sadducéens ont quand même perduré.
Ils ont quand même perduré.
Oui, ouais, bien sûr. Mais les Hashmonaïm ont eu le dessus pendant 103 ans, quand même. Et ils ont balayé. Mais après c'était avec des allers-retours.
Des allers-retours. Il y a eu la controverse avec Rabbi Yochanan Ben Zakkai.
Non, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, c'est... Oui, c'était plus tard. Oui,
avec les Sadducéens.
Oui, oui. Oui, mais c'est beaucoup plus tard. On est deux siècles plus tard, pratiquement.
Oui, mais ils étaient plus tard.
Il y a toujours. Après, ils ont changé de nom. Après, à cette époque, c'est les Sadducéens. Après, à l'époque de. Après, 1000 ans plus tard, pratiquement, c'était
là.
Les Karaïtes.
Ouais.
C'est toujours la problématique de la Torah. Et aujourd'hui, c'est les libéraux.
Ben oui, les libéraux, il faut reconnaître qu'ils ont une problématique de négation de la Torah orale.
Complètement. Ah. Ça, c'est leur point, leur bête noire, c'est la Torah orale.
Ils ont deux problèmes constitutifs fondamentaux. Il y a le repas de Tréfa, vous connaissez le repas de Tréfa, et la négation de la Torah orale.
Oui, la clé, c'est...
À l'origine, en fait, le mouvement libéral, il est né comme ça. Il est né qu'un jour... Pendant un cours à Shalom, il y a un type, il a servi une Seouda, et il a dit, cette Seouda n'est pas cachère, et nous, on la mange. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement libéral aux États-Unis. Les gens ne savent pas, mais c'est comme ça qu'il est né.
Enfin, le repas
de Tréfa.
Ouais, enfin bon, ça joue beaucoup.
Ah oui, mais
on ne va pas trop mais il y a un rapport. Non, il y a un rapport entre ce qu'on mange et comment on comprend la Torah. C'est pour ça que, quand par exemple, vous parlez des séminaires Arachim ou Raita, dans ces séminaires. Et c'est pas seulement venir écouter des cours, c'est des séjours complets où les gens mangent aussi. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qu'on mange, on comprend ou on comprend pas la Torah. Si les gens ils viennent seulement à des conférences et après ils mangent chez eux, c'est pas bon. Et c'est pour ça que c'est lié avec le ce qu'on mange. C'est très très important.
Ils sont pas. Juste un petit bémol. Les libéraux, ils sont pas contre toute la Torah orale.
Attention.
Mais c'est pas une religion de principe. Il y a des choses dans la religion orale. Ils font le tri dans ce qui
est important. On fait pas un truc sur le mouvement réformé libéraux. C'est pas le thème du cours. Mais c'est juste un peu touché. Maintenant, je veux dire, chez les libéraux, il y a tout un panel de trucs. Voilà. Vous avez de ceux qui font les mariages homo, et ceux qui refusent ce genre de choses en disant c'est une aberration, etc. Donc, c'est-à-dire, mais une des clés c'est le rapport à la Torah orale. La halakha, on l'a fait comme on veut aujourd'hui. Hein, et c'est pour ça que les Massorti, après, ils ont dit non, la Torah orale, on accepte, mais on la comprend comme on veut. Et ils vont s'arranger avec la Torah orale en disant non, on prend le Talmud, on le jette pas, mais on se conforme pas aux dates de la Torah des
Chachamim.
Alors maintenant,
des Chachamim
d'aujourd'hui encore. Des Chachamim, oui, bien sûr, c'est des poskim. Alors, il y a des choses qu'on comprend, pourquoi tu vas un deuxième jour, un autre jour, tout le monde sait que. On a des décisionnaires, on a des poskim qui voient beaucoup plus loin que nous, qui sont pétris. Non seulement de Torah, de connaissances, mais aussi de tzitkout. Il est impensable qu'un décisionnaire soit un génie, un expert au niveau intellectuel et que son comportement ne suive pas avec ses grandeurs. Les rabbinim comme Rav Eliashiv, Rav Odi Yosef, etc. C'est des exemples.
Non, mais
oui, mais c'est-à-dire que ce sont des exemples à la fois de génie et d'experts dans la Torah, mais aussi qui vivent leur Torah. Et c'est pas seulement des professeurs de haut niveau, des experts de la halakha. Ça c'est la grosse différence. Enfin bon, revenons à notre
C8.
Alors
verset 8.
Alors c'est le chapitre Ren, la grâce, chapitre 58. Le verset 8, comme les 8, ça va être la clé du 8. Hanouka, c'est 8 jours. Et regardez, Az Yibakak Hashachar Orecha. Regardez que c'est beau. Az, alors, Yibaka va jaillir. Yibaka, c'est. J'aurais traduit ça va pourfendre. Bokea, c'est plus que c'est. Hein, comme. C'est quand on prend du bois, on a une hache, et je suis Bokea. Je coupe comme ça, donc c'est pour fendre. Ibaka, remarquez que c'est les mêmes lettres que Yaakov. Kachachar, comme le matin, Orecha, ta lumière. La nuit, on est exactement dans le sujet de Hanouka, de la lumière. Varuchatra mehrat itzmar. Et ta guérison, Kakadosh Baruch Hu, il envoie une guérison complète à tous les malades. Varuchatra et ta guérison, comment ils ont traduit ici? Et ta guérison, ils ont dit, sera prompte. Et marchera devant toi, c'est quoi? Marchera devant toi, tzitkecha, ta justice. Que vod Hashem yasfecha, et l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu va te recueillir, yasfecha. C'est quoi? Vehalach lefanecha tzitkecha. C'est quoi Vehalach?
Remarque que ça commence par Yaakov et ça finit par Yosef. Hein?
Il y a Sfera, bravo, bien vu. Et alors regardez comme c'est un passouk, on est dans Kippour là. Kippour, ah oui, Kippour, c'est le jour du Kohen Gadol. C'est le jour où le Kohen Gadol fait tout le Seder Avodah, il dépend du Kohen Gadol. Or, on avait besoin d'une fiole, Hatoum Bechatzimat à Kohen Gadol. C'est pas le Kohen Gadol qui donne la Khatima. C'est quoi ça, la Khatima? C'est le quoi? C'est le Bedin? C'est Rav, je sais pas, c'est Rav Lando, le Badat? Non. Parce que le Kohen Gadol, il est lié avec Kippour. Et Kippour qui est la Khatima qui est la conclusion de Kippour. La Khatima, c'est la Nerila.
La Nerila, ouais.
Alors maintenant, donc on est dans le Tikkun du Kohen Gadol. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que Matisyahu ben Yohanan Kohen Gadol, Yohanan en question, c'est celui qui pendant 80 ans, était Kohen Gadol comme il faut, et au bout de 80 ans, il a mal tourné. Et Matityahu, il va faire le tikkun de son père.
Son père, c'était qui?
Yohanan.
Yohanan ben Zakkai, non.
Non, Yohanan. Non.
Excusez-moi.
et certains vont dire que c'était ben Chonio. Alors, c'est des noms comme ça, on se dit d'où ça sort. Chonio, c'est une déformation de Yohanan.
Et ils ont des noms à coucher d'or avec un billet de logement. Comment on disait?
Alors, Az, Yibaka, Kachacha, Orecha. C'est quoi? Ve'alach lefanecha tzitkecha. Va marcher devant toi, ta tzitkecha.
Ta droiture.
Ta bonté.
D'ici, vous avez.
Ta justice, tzitkecha.
Le principe que quand on fait la tefila, on doit donner la tzedaka avant la prière. Ve'alach lefanecha tzitkecha. Marchera devant toi, ta tzedaka.
Tu mets la
tzedaka avant la prière.
Il les donne au milieu.
Non, c'est avant l'Amida. Avant l'Amida.
Oui, d'accord, avant l'Amida. Ouais, la prière,
c'est... Ouais. Et cette Amida, c'est ce qui est beau. Et c'est ça, tu mets la tzedaka devant. Enfin, il y aura la tzedaka devant. C'est quoi la tzedaka? Le tzadik devant Yavan. Ça fait Tzion. Et je ferai ma prière en direction de Tzion. C'est là. Et Az, c'est quoi Az? Aleph Zayin. Aleph, c'est le Aleph, c'est la Chochma, qui maîtrise le Zayin, les forces naturelles. Le Zayin, c'est la matière.
Les sept.
Donc, si le Az, le Aleph, il maîtrise le Zayin, alors j'arrive au 8, 1 et 7, ça fait 8, c'est Hanouka. Parce que Hanouka, c'est 1 plus 8. Comment c'est 1 plus 8?
Et au Tov.
et au Tov, un plus 8, un plus 7, un plus 7, exactement, exactement, exactement. Si, si j'oublie, tu me rappelles le Tov.
Tu me rappelles ça. Vous êtes devenu balèze dans Gematria. Alors, ça me fait penser à quelque chose, de la même manière qu'on dit Kippour, Kippourim, on pourrait dire donc, d'une certaine manière, Hanouka, Kippour.
Oui. Bien sûr, bien sûr.
Qui pourra.
Bien sûr.
Qui pourra.
Bien sûr.
Hanouki.
J'espère.
Pour. Qui pour.
Alors regardez.
Hanouka qui pour.
On se prépare.
Ça sonne moins bien quand même.
Ça sonne moins bien, mais c'est plus difficile. Le lien plus difficile.
Non, mais on va le dire autrement. On va le dire autrement.
Ouais, je vous.
Regardez.
On va te traduire ça. Ouais.
Je vais vous le dribbler de deux façons.
Ah oui, dribbler le nous, ouais, surtout.
Regardez. Depuis un mois avant Rosh Hashanah. Et on le fait jusqu'à Kippour, et même au-delà de Kippour, on le fait jusqu'à Oshana Rabba, on fait un psaume.
Et David,
Hachem Ori, ouais. Veishi. Ouais. Comment c'est ? Psaume ? Et David, Hachem Ori, Dieu est ma lumière.
On le fait tout le temps.
Oui, Sfaradim, ils font tous les jours en rite. C'est voilà. Mais c'est un psaume, en tout cas, par rapport au mois des Louls, et en préparation jusqu'à. Hachem Ori, Dieu est ma lumière. Alors on dit Ori, c'est quoi ? C'est Rosh Hashanah. Hop, c'est, on a une connexion avec Rosh Hashanah. Il y a encore plein de matière par rapport à ça. Mais enfin, Rosh Hashanah, Ori, c'est ma lumière. Mais Ori, c'est Hanouka.
Ouais. Oui.
Alors, et qu'est-ce qu'on dit dans les David Hachem Ori Vichy ? Bezot ani botea. Moi, j'ai confiance en ça. Bezot. C'est quoi Bezot ?
Hanouka.
Zot Hanouka Tamisbiar. C'est le huitième jour de Hanouka. Ça s'appelle Zot Hanouka. Bezot animoter, moi j'ai confiance. Pourquoi botea? J'ai confiance dans la teshuva qui va jusqu'à Zot. Comment la teshuva jusqu'à Zot? Parce qu'il y a marqué Tachev Enosh ad Daka. L'homme revient jusqu'à Daka, jusqu'aux plus petites choses. Daka, Dav, Dalet, Kaf, Aleph, 25. L'homme revient jusqu'au 25 qui se lève.
Et le 25 qui se lève.
Et qui se lève ? Qui se lève ?
Mais d'où peut-être cette manière, d'où cette approche du Harizal,
oui,
de faire descendre jusqu'à la Malchoute ?
Oui.
Parce que Hanouka, vu qu'on allume dans le monde physique, c'est une connexion à la Malchoute.
C'est ça et c'est encore plus que ça.
Sûrement.
Parce qu'on a dit, c'est le principe de Yaakov. Yaakov nasa sukota. Yaakov est décédé quand ? Il est fait quand ?
Tu veux dire le mois ?
Oui, dans quel mois ?
Ah, les mois Rosh Hashanah, enfin de Tishri.
En mois Tishri, d'où tu sais ?
Parce qu'il est né en Tishri, il est mort en Tishri.
Oui, mais moi je veux une preuve.
Ah bah, tu vas voir dans Rosh Hashanah 11.
Moi je veux dans la Torah, moi.
Ah, dans la Torah ?
Je veux la Torah,
ah,
ouais.
Ah, ouais.
Moi je veux dans la Torah.
Eh bah, ils ont attendu un mois. Pour 40 jours, ils ont pour l'enterrer. Rosh Hashanah. Alors, dans la Torah.
Alors, prenez-moi Bereshit 33:17.
Alors, on va prendre le départ.
33:17. 33:17. Page 192.
192.
Page 192. Oui, 33.
33.
Ouais, page 192. Chapitre 33, verset 17. 33. Tu dévoiles le Tov. Gal 17. Hein ? Ve Yaakov nasa à Sukkot. Et Yaakov est parti à Sukkot. Tout simplement. Marqué en toutes lettres.
Ah.
Yaakov nasa Sukkota. Yaakov est parti, il est dans l'Olamaba à Sukkot.
C'est marrant parce que c'est effectivement le 15 de Tishri qu'il est mort.
Et voilà, tout simplement.
C'est où ça ? J'arrive pas.
Mais Yaakov nasa Sukkota.
Non.
C'est 192, c'est ça ? Yaakov nasa Sukkota. Et Yaakov est parti à Sukkot.
Nassa, bien. Il est parti, Nassa.
Donc Yaakov nasa Sukkota. Yaakov, il est niftar à Sukkot. Il était enterré quand ?
Il a été enterré 40 jours plus tard.
Prends chapitre 49, verset 3. 49, 3. Quoi, non ?
Si, enterré 40 jours plus tard.
Non, mais attendez, vous croyez qu'il avait dit quelque chose juste ? 49-3.
Comme ça, de...
49-3. 49-3.
Ils ont embaumé, non ? 49-3.
Attendez, 49-3. Hein. Oui, 49-3. 49-3.
Quelle page ? 49-3, 294.
Attendez. Attendez, je crois que j'ai, je crois. Non, c'est pas 49-3.
Non,
c'est un soutien. C'est pas 49-3. C'est 53. Attendez. Oui.
Alors.
C'est 53, excusez-moi. 53.
Page.
Page 302. Page 302.
Ouais, 53. Ça période de 40 jours, ce coup-là.
Attendez, regardez, vous lisez le passage jusqu'au bout. Vaïm Léoulo, Arbaïm Yom, il s'est rempli les 40 jours, les fameux 40 jours.
Ça fait 25 qui se lèvent.
Attendez.
Ouais, c'est bon.
Hein,
ça marche.
Pas sûr.
15 ticheries.
70. Parce que Marcel Meloni m'a dit va Yvkoto, Shiva Imiom. Ils l'ont pleuré 70 jours. Donc 70 jours du 15 Tishri, 25 qui se lèvent. Ta 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 ta. Donc l'enterrement de Yaakov, c'est Hanouka.
Ça, c'est incroyable.
Mais comment l'enterrement de Yaakov ? Yaakov, c'est celui qui est au-dessus de tout. Il y a marqué Yaakov Lomet. Yaakov n'est pas mort, il n'y a pas marqué Vayamot Yaakov.
On attend juste qu'il se lève.
On attend juste qu'il se lève.
Je dis tout à l'heure, le 25, il se lève.
Alors regardez. Yaakov est marqué Lomet. Mazaro Bachaim, Afou Bachaim. Comme sa descendance est vivante, donc lui aussi il est vivant.
C'était cette semaine, Rabbi Taïeb Lomet.
Rabbi Taïeb Lomet. C'était hier.
Attendez,
attendez, attendez. Retenez-vous.
C'était hier.
C'est le seul qu'on a dit, non,
il nous a, parce qu'il y a une ou deux années, il nous a fait un fils là-dessus.
Il n'a pas fait cette année.
Pas tout, je change, je fais tous les ans la même chose. Alors, donc...
Parce que toi, tu considères que les 70, ils ne s'additionnent pas aux 40. Hein.
Non.
Ils sont inclus.
Non, non, ils sont inclus dedans. Alors, donc maintenant, donc Yaakov, il est enterré. Mais comment on est enterré ? On dit Ma'o Bachaim, Ma'o Bachaim. Comme Rabbi Chaim Tolmet, il est considéré comme vivant.
Oui.
Donc, s'il est vivant, tu l'enterres. Ça veut dire qu'il peut aller dans les profondeurs de la matière et l'élever pour lui permettre d'être à un degré
de
vitalité. Ça ressemble à quoi ? Les huiles et les mèches qui ne peuvent pas servir pour Shabbat peuvent servir pour Hanouka. Sfat Emet explique que la lumière de Hanouka peut rentrer là où la lumière de Shabbat ne rentre pas. La puissance de Hanouka, c'est de pouvoir irradier la matière au plus profond pour l'élever à la spiritualité, chose qu'aucune autre fête ne peut faire. C'est pour ça que la fête de Hanouka est la fête la plus suivie par les Juifs à travers le monde. Plus que tout, plus que Kippour.
Ils le sentent.
Il y a des Juifs qui ne font pas Kippour, ils font Hanouka. Ouais. Alors, il lui donne un sens national, un sens machin, etc. Toutes sortes. Mais Hanouka, c'est très, très, très particulier, très, très puissant. Et c'est ça la puissance de Hanouka qui va rentrer dans la matière. C'est l'enterrement de Yaakov. D'accord ? Donc.
Mais dis-moi, c'est quand même bizarre. Il y a une chose qui est bizarre, quand même.
Une chose ? Bon, c'est
bizarre. Oui, il y a une chose qui est bizarre. C'est comment ? T'attends que t'attends pour enterrer ton père que les Égyptiens aient pleuré ? Ça veut dire quoi, ça ? Normalement, on enterre aujourd'hui, mais on a 10 minutes ces 10 minutes.
Temps,
là-bas, ils attendent. Je veux bien qu'ils aient donné 40 jours, mais après, ils laissent 70 jours.
Mais ce n'étaient pas les mêmes rites.
Ouais.
Funéraires, avant. À l'époque de l'Antiquité, comme ça.
Parce qu'ils devaient l'embaumer.
Maintenant, alors tu veux pshat, tu veux drouche, tu veux sod.
Alors je veux les trois. Commence par le pshat.
Pshat.
Oui,
pshat.
Parce qu'il y a tous les sens dedans.
Dans le pshat, Yosef a promis à son père de l'enterrer en Israël.
Ouais.
Ouais. Il a fait jurer, tu m'enterreras en Israël, tu m'enterreras pas là. À cette époque, on déplace facilement des morts ?
Non.
Non. Parce qu'il va, il va, il va pourrir.
Voilà, oui.
Et, Rachel, elle est niftera sur la route, il l'a enterré à la Macom.
Raison, tu apportes de l'eau à mon moulin.
À l'endroit même. Et à son père, il lui dit, tu m'enterreras à... Or, il y a, donc pour pouvoir l'amener là-bas,
il faut du temps.
Il faut du temps. Et pour pouvoir l'amener avec ce temps et qu'il ne se décompose pas, parce qu'il fait chaud, etc., eh bien, il faut l'embaumer. Donc, il y a un temps d'embaumement, et donc, il est obligé de dire aux Égyptiens, on va embaumer mon père. L'embaumer, le faire entrer dans un rituel égyptien. Ce rituel fait que les Égyptiens disent, alors, si on doit l'embaumer, donc, vous nous laissez faire l'honneur à ton père. Et l'honneur, en Égypte, c'est on fait un deuil, pas de 7 jours, mais de 70 jours.
C'est ça, c'était les rites funéraires de l'époque.
Alors, certains commentaires vont reprocher à Yosef d'avoir accepté ça.
Ah oui.
Et de l'avoir embaumé, parce que un tzadik, oui,
comment,
il ne pourrit pas.
Alors, comment il l'emmène alors.
Et c'est un tzadik.
Surtout que l'omet.
L'omet. Quand ils arrivent, alors, au moment où ils devaient être enterrés, et que Esav, il a dit,
il
non
sourit,
mais attendez.
Il
ouvre les yeux et dit, allez, qu'est-ce qu'il faut, il sourit.
Alors, mais attends,
Donc, ça veut dire être reproché.
Alors, et d'ailleurs, attends, donc dans cette séquence en pshat, ça veut dire qu'en fait, les fils de Yaakov,
oui,
ils n'ont pris le deuil qu'après ces 70 jours.
Bah oui, puisque le deuil...
Donc, ils ont fait 7 jours, après 70 jours, leur père est mort, ils ont fait le deuil à...
Pendant Hanouka.
Mais Hanukkah n'existait pas à l'époque.
Non, non, mais attends, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça voudrait dire qu'ils ont pris le deuil pendant
Hanukkah. Oui. Maintenant, c'est pas sûr. Parce que quand tu regardes les psukim, c'est possible qu'à l'époque, ils aient pris le deuil avant l'enterrement. Chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Mais qui est possible. C'est-à-dire le deuil... Bon, là, on rentre dans un problème un peu de halakha. La halakha n'est pas forcément suivie.
Attends.
La halakha n'est pas forcément suivie dans le Chumash, comme nous, on le vit. Je te donne un exemple. Quand on nous dit que Yehuda va avoir des relations avec Tamar,
ouais,
qui est sa belle-fille,
ouais,
il fait mitzvah de Yiboum.
Ouais.
C'est impensable aujourd'hui qu'un beau-père va faire Yiboum à sa belle-fille. Parce que son fils est Niftar sans laisser d'enfant.
Ah oui.
La mitzvah d'Iboum, c'est le frère.
Il ne l'a pas fait volontairement.
Non. C'est mitzvah d'Iboum.
Oui.
C'est le beau-père.
Non, c'est le frère.
Ouais. C'est le mitzvah d'Iboum, ça doit être le frère.
Ouais.
Mais Yehuda, par rapport à Tamar, c'est son beau-père.
Ouais.
Alors, donc, ça ne marche pas.
C'est un interdit.
C'est un interdit, c'est un rayot. Donc, tu vois que dans la réalisation de certaines choses que tu retrouves dans le Chumash, ne sont pas appliquées comme la halakha nous ferait aujourd'hui appliquer les choses.
Ah, certes.
Maintenant, je peux te dire mieux encore, même au niveau halakhique, tu peux avoir une configuration où avant l'enterrement, le deuil a commencé. Normalement, le deuil commence après l'enterrement. Mais, imagine...
Disparu en mer.
Pas seulement. À l'époque, aujourd'hui, on ne fait plus la halakha comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de savoir quand il va avoir l'enterrement. Quelqu'un part en Israël, il laisse la famille en France. Il y a donc, on va dire, il y a des frères, c'est un cas classique, des frères ou des parents, il y a des gens qui ne font pas le voyage jusqu'en Israël pour l'enterrement, ils restent en France. Ils ne prennent pas le deuil au moment où c'est parti, ils prennent le deuil au moment où c'est l'enterrement. Parce qu'aujourd'hui, tu passes un coup de fil, tu sais, machin, tu suis même en direct l'enterrement. Mais avant, ils prenaient le bateau pour après enterrer en Israël, à X jours après. Il commence quand le deuil? Mais je ne sais pas. Alors quand il commence? Quand le corps est parti. À partir du moment où ils sont sur le quai et qu'ils ont mis le corps sur le bateau et que le bateau il part maintenant en croisière pour aller jusqu'en Israël, pour l'enterrer en Israël, et que le voyage va durer 10 jours, 15 jours, un mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ceux qui restent sur le quai, quand ils commencent leur deuil, ils commencent leur deuil. Au revoir, le deuil il a commencé. Pourtant il n'est pas enterré. Le deuil il a commencé. Non, ceux qui sont bateau, non, il commence pas.
Là ils étaient ensemble.
Attends, je suis en train juste d'expliquer que le.
Pour ceux qui restent.
Attends. Je voulais vous montrer, halakhiquement parlant, qu'un deuil peut commencer alors que l'enterrement n'a pas été réalisé. Maintenant, on peut considérer qu'ici, dans la Torah...
Juste parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être enterré.
Pas seulement.
Ah, parce que alors aujourd'hui, tu me dis, on sait quand. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ils prennent le deuil quand leur père y part.
Non, parce qu'ils savent quand il va être enterré.
C'est bien ce que je te dis. Qu'ils savent quand est-ce qu'il est enterré. C'est bien ce que je te dis.
Oui.
Non, tu ne m'as dit pas forcément.
Je ne savais pas, là.
Il n'y a pas une maîtrise... Enfin, on va le dire comme ça. On va dire, celui qui reste... Pour lui, l'équivalence de l'enterrement, c'est le corps qui s'en va.
Et aujourd'hui, non.
Aujourd'hui, non, on ne fait pas comme ça. On pourrait faire comme ça, mais on ne fait pas. En plus de ça, tu as dans les lois de deuil le principe de le plus important de la famille. Quand par exemple, il y a un fils aîné. Donc, en fonction de lui, on s'indexe. Les autres s'indexent d'après lui. C'est très complexe.
D'accord.
C'est très complexe. Alors. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas forcément une relation absolue entre enterrement et début du deuil.
D'accord.
Donc, pour Yaakov, on peut considérer que à partir du moment où il est niftar en Égypte, et que au début, Yosef n'est pas sûr qu'il va pouvoir amener son père. Rappelez-vous, qui a dit « Laisse-moi aller, cacher, comme mon père m'a fait jurer. » Et puis, Paro, il va dire « On s'en fout. » Parce qu'il savait, Yosef, que Paro allait le bloquer. Il dit « Ah, attends, mais je lui ai juré. » Il dit « C'est pas grave, on s'en moque. Les serments, on n'en tient pas compte. » « Ah, on ne tient pas compte, donc je ne tiens pas compte le serment que je t'ai fait, que je connais une langue de plus, que toi, tu ne connais pas la Shana Kodesh. » Je suis d'accord, tu vas pouvoir enterrer ton père.
Oui, mais là, tu ne peux pas dire qu'il ne savait pas Yosef. Il a juré.
Oui, non, mais il a juré.
Son père.
Oui, attends, mais...
Il l'enterrera là-bas.
Oui, mais il ne sait pas la réaction de... Si Paro, il l'empêche...
Il aurait fait la guerre à l'Égypte. Il a juré devant son père.
Oui, en tout cas, on est devant une situation où il ne maîtrise pas tout. Il a beau être le vice-roi d'Égypte, et c'est très, très fort. Parce que l'exil d'Égypte commence à partir de ce moment-là. Yosef, ce n'est pas parce qu'il est vice-roi d'Égypte qu'il peut partir d'Égypte, même pour enterrer son père comme il veut. Et donc, il va avoir une organisation par où il va dire « Tu veux enterrer ton père ?»« Oui, j'ai juré. »« tu m'as juré, donc bon, ok, je suis d'accord. » Mais on va s'organiser comme nous, Égyptiens, on fait. Je veux que tu sois entouré de tous les anciens d'Égypte. Evel Gadol les Mitzrayim. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est un grand deuil. Et le deuil, il a commencé avant l'enterrement.
Bien sûr, parce que 70 jours, il te dit.
Donc ça veut dire que le deuil.
Ah, mais pas de Yosef.
Le deuil de Yosef, le deuil compris les enfants de Yaakov par rapport à leur père, il était avant l'enterrement.
Non.
C'est marqué en tout
cas. Mais regarde le chat de la Torah. Excuse-moi. Le pshat de la Torah, il te dit le contraire.
Il a pleuré. Attends. Evel Mitzrayim Asher Bever Yarden. Ils sont en dehors. Vayishoto Beyartza Kenaan. Vayikbiroto Bever Yarden. Ashekan Bever Yarden. Vayashov. Regarde verset 13. Reprends à partir. Regarde. À partir du 11. 10. 10. Vas-y.
Prends verset 10.
Vayavu et Goren Atad. Ils sont arrivés jusqu'à Goren à Atad. À Sherberver à Yarden, qui est de l'autre côté du Jourdain.
Voilà.
Ils ont fait le Sped.
Ouais.
Sped Gadol, avec Kaved Meod, Vayas Laviv, Evel, Shivat Yamim. Il a fait un deuil de 7 jours. Il n'est pas enterré. Il n'est pas enterré. Regarde la suite. Vayar Yoshev Aretz, l'habitant de la terre de Kenani, a vu le grand deuil. On est d'accord qu'il a fait le deuil de 7 jours, là. Goren à Atad. Evel Gadol, attends, écoute la suite. Evel Kaved Zel Mitzrayim, c'est un grand deuil pour l'Égypte. Alken Karashema Evel Mitzrayim, c'est pour ça qu'on l'appelle Evel Mitzrayim. Shabbat Yadan. Vayasman Avlo Kasher Tivam, ils ont fait comme il a dit. Vayisu Oto, après, ils l'ont levé. Banav Artsakenan, ils sont rentrés Artsakenan. Vayikberu Oto, ils l'ont enterré. Maintenant, il n'était pas enterré avant.
D'accord, mais ils ont passé le Jourdain.
Après.
Comment ça, après c'est après avoir passé le Jourdain qu'ils ont pris le deuil de 7 jours. Excuse-moi.
Oui, mais on est avant l'enterrement dans tous les cas.
Non, mais on est à la fin des 70 jours, là.
Oui, non, mais on a un deuil qui est avant l'enterrement.
Ma question, elle est, est-ce que le deuil n'aurait pas été pendant les jours de Hanouka, si effectivement ils ont attendu 70 jours?
A priori, non. De toute façon, là, ce que je voulais te montrer, c'est que le deuil, il a été avant l'enterrement. Et on retrouve chez Yaakov le principe du deuil qu'on a par rapport au Beth Amikdash. Le deuil du Beth Amikdash, comment faire? C'est quoi le? C'est 9 av. On est en deuil avant le 9 av ou après le 9 av?
Avant.
Avant. On commence le deuil et se termine le 9 av. 9, 10, quoi, on ne va pas trop chipoter sur les séjours. Ouais. Mais on a les halakhot des 3 semaines, qui est un peu comme le mois. Après, on se rapproche, c'est comme la semaine de deuil. Ça va en crescendo, mais à l'envers. Et après qu'il y a eu la destruction du temple, hop, c'est fini. C'est exact, on retrouve le même principe chez Yaakov.
Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, mais
tu as le droit.
Tout ça, non, parce
t'as droit.
Le verset que tu dis après, il n'est pas dans l'ordre chronologique. Là, on t'informe qu'en fait, c'est pour t'expliquer qu'ils ont fait exactement. C'est comme si la Torah venait te résumer qu'ils ont fait exactement ce que oui. Yaakov a voulu.
Des 31 en Israël.
Ce n'est pas la suite du passage d'avant qui dit qu'ils ont pris le deuil et qu'ils ont enterré après.
Est-ce qu'ils n'ont pas pris un deuil différent une fois qu'ils sont rentrés? Ils étaient tout seuls en Israël.
Oui.
Ils n'ont plus le rite égyptien, ils n'ont plus les Égyptiens avec eux, etc. Et là, ils font leur rite habituel.
Ce n'est pas une chronologie.
C'est toujours avant. Hein.
C'est pas
gênant pour eux.
Non, parce que c'est intéressant. Ça voudrait dire que le jour de deuil qu'ils ont pris pour leur père, mm-hmm. en fait, c'était des jours de lumière. C'est pour ça que je veux revenir.
Tu fais rentrer le deuil dans Hanouka.
Oui, je te fais rentrer le deuil dans Hanouka depuis tout à l'heure.
Ah, alors moi, je te le mets à l'envers. Je te dis le deuil qui était triste, il était avant Hanouka. Pour que après Hanouka, ils étaient dans un. Je te fais cadeau.
À l'issue des, il y a marqué, à l'issue des oraisons funèbres, les fils ont transporté le cercueil sur leurs épaules, en direction du caveau de Marpella.
Voilà.
Donc, il y a quand même une. Il semblerait qu'il y ait quand même une. Si ça a été cité après, c'est que ça vient après.
Et pourquoi Marpella? Regarde, Marpella, c'est le caveau Marpella, Kafel, couple. Double. Donc, j'ai le double. Donc, c'est-à-dire, c'est le double. Si tu veux retrouver la base, tu coupes en deux. Donc, si à Marpella, ils ont été pour Hanouka, mais c'est Marpella. Donc, à Hanouka, on allume combien de lumières? 36. Coupe 36 en deux.
18.
Hi. C'est pour ça, il y a Yaakov le mettre. Parce que quand tu l'enterres, tu retrouves Hi. Elle est bonne. Là, il n'y avait pas de chiffre.
Non, mais le 36, c'est bien.
C'était bien.
Est-ce qu'il y a quelque chose pour expliquer pourquoi ils ont traversé le Jourdain en venant d'Égypte? Pourquoi ils avaient... C'est pas la route...
C'est une bonne remarque. Allez, on va dire simplement, ils vont reprendre en fait le chemin de la sortie d'Égypte pour rentrer en Israël.
Ils vont prendre par anticipation.
Le chemin avec Yaakov, c'est le chemin qu'ils vont faire pour, au moment de la sortie d'Égypte, pour rentrer en Israël. C'est une bonne... Pas grande étape, mais enfin... Masavot Simon Abanim.
Ça commence par Soukod aussi.
Oui. Exactement. Parce que la première étape pour la sortie d'Égypte, c'est Soukod. Et on dit, ah, quand on a sa Soukod, hein. Ouais. Ah non, ça...
Ils avaient prévu le coup, quoi.
C'est prévu. Ouais, ils avaient prévu le... D'ailleurs, pour un petit truc, un petit simple, c'est que si, parce que juste ça, c'est pour c'est du léger. Regardez. Alors, il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que si j'écris Hanouka, et on va travailler maintenant avec la petite valeur numérique. Petite valeur numérique, c'est-à-dire j'oublie les zéros. Donc, Chet, c'est 8, ça ne bouge pas. Noun, c'est 50. 5. Vav, 6, ça ne bouge pas. 21 avec 2. Et 5. C'est 26. Hanouka, Gematria, 26 en petite valeur numérique.
Ouais.
Pas mal.
Et dis-moi d'ailleurs dans le verset qu'on, qu'on a lu au niveau de on retrouve presque Hanouka, il y a Hanou.
Ouais.
À Hanoutim. Yeme à Hanoutim.
Ouais. Non, si je veux un Hanouka, j'ai mieux que ça. Hein. J'ai, ouais. Attends, je vais vous montrer ici une petite chose. Maintenant, Hanouka, en valeur numérique normale, ça fait combien?
89.
89. 8 et 9, 17. Maintenant.
1972.
Ah oui. 1972. Donc, c'est. Et Maccabi? Maccabi. Ça fait combien, Maccabi? 40 plus 20? 60. Plus 10?
70.
Plus 2?
112. Voilà. C'est
ça. Donc maintenant, allez, mais
on
maintenant
ce qui je... catégorie, hein.
C'est tout le camembert, c'est des... bien perçu peut-être.
Quoi?
Non, 72, c'est tout le camembert. C'est bien un camembert, c'est pas le Maccabi.
Ah, Maccabi. Ah,
Maccabi. Camembert du Maccabi.
Alors regardez.
C'est ça.
Il est bon au moins.
Et Maccabi.
L'histoire.
Et 9 moins 8, Echad.
9 moins 8, ça fait Echad, exact. Maintenant. L'histoire commence dans notre paracha avec Yosef. Yosef, Gematria Tzion. Tzion, hein, on a vu Yosef. Or, Yosef, son histoire commence avec il était âgé de 17 ans. Ben Sheva Esrechana, Aya Roe et Echav Batson. Donc, ce 17, c'est la clé qui nous ouvre toutes les portes. Parce que c'est la fête de la lumière qui est considérée comme Tov. Aya Elohim est alors qui Tov. Or, qu'est-ce qui est Tov? Eh bien, cette lumière qui nous permet de retrouver la lumière de la Neshama. Neshama, petite valeur numérique. 5 plus 3. Et 4.
12.
Et 5.
17.
Maintenant, cette Neshama, ça nous permet de retrouver la divinité qui est en nous. C'est Yud, Ke, Vav, Ke. En petite valeur numérique, toujours. 1 plus 5 plus 6 plus 5, 17. Cette divinité qui est en nous, comment on peut la révéler? Grâce à la Torah. 4 plus 5, 4 plus 6, 10, plus 2, plus 5, ça fait 17. Et ça, c'est la caractéristique fondamentale du Yehudi, le juif. 1 plus 5, 6 plus 6 et 6, 12, plus 4,
16
et 1, 17.
Le compte est bon.
Le compte est bon. Maintenant, à quel moment on reparle de. On a dit à quel moment on parle de la Hanouka, parce que là, ça, c'est parce que tu voulais. Tu veux trouver Hanouka dans la Torah? Il n'y a pas de souci.
Non, là, à l'endroit que tu avais dit.
Il faut un endroit clé. Un endroit
mais
clé.
Il y a une clé, puisque c'est là le moment où il est mort.
Oui, mais il y a un autre truc. C'est que l'histoire de Hanouka, elle est au moment où Yaakov va lutter contre l'archange Esav, oui. Où il retrouve le nom d'Israël. Et donc. Il va lui luxer la et c'est pour ça qu'on ne mange pas le nerf sciatique, le guide anaché. Or, il respectait ce...
Pourquoi on mange pas le nerf sciatique à cause de ça?
Parce que... Bon, ça, c'est
un autre cours.
C'est un autre cours, ça, c'est un autre cours. Donc, il respectait ce... de ne pas manger le nerf sciatique. Donc, l'histoire du nerf sciatique, c'est guide anaché, c'est... C'est lié avec Hanouka. Or, quand Yosef va recevoir ses frères.
Non, mais Guy Danaché, tu dis c'est lié avec Hanouka. Tu ne nous as pas expliqué pourquoi, là, pour l'instant.
C'est un autre coup.
Non, pas dit ça.
Le nerf sciatique avec Hanouka?
Non.
On n'a pas. Alors, attendez.
Pas dit.
Quand Yaakov il est retourné en arrière. Par une ketanim, pour la petite fiole. C'est quoi la petite fiole? Par, c'est kaf. Kaf, c'est la hanche. Et kaf, par, c'est les mêmes lettres. Par, c'est le parchemin. Par, c'est la fiole d'huile. Et par, à l'envers, c'est kaf. Kaf, c'est la hanche. Al-kaf yerecho. D'ailleurs, le Zohar dit, il l'a touché à la hanche gauche. Parce que la hanche gauche, c'est pour ça qu'on allume à gauche la Hanoukia. Et la hanche gauche, si au niveau de Adam Kadmon, les Netzach Hod, c'est la hanche droite, c'est Netzach, c'est Moshe, et la hanche gauche, c'est Hod. Hod, c'est le Kohen Gadol. C'est Aaron.
Gauche, ouais. Aaron. On dit qu'il a touché justement avec Nadav et Avihu.
Avec Nadav et Avihu, exactement. Donc c'était. Donc il était le
Zohar et tout ça.
Exactement. Ah, maintenant.
Et quand il les a touchés, c'est
le cap sur le bif.
Attends, donc c'est pour ça qu'ils sont morts prématurément.
Voilà. C'est là où il l'a touché.
En fait, il voulait empêcher. Il voulait empêcher l'inauguration.
Ouais. Voilà. Donc on est d'accord que donc à partir de ce moment-là, on mange pas le guide anaché, le nerf sciatique, et c'est une connexion avec l'histoire de Hanouka. On est d'accord ? Prenez page 258. On est dans Bereshit, chapitre 43. Des Bereshit 43, verset 16. C'est le début du chichi, sans faire de chichi. 43, 16. Page 258, vous l'avez ?
Ouais.
Donc là, les frères de Yosef sont revenus. Ils sont au deuxième voyage. Ils sont venus cette fois-ci avec Binyamin. D'accord ? Vaïa Yosef Itam et Binyamin. Yosef a vu qu'avec eux, il y avait Binyamin. Vaïa Omer la chère Albeto. Il a dit à celui, à l'intendance de sa maison, « Havé et Anashim Abaita, amène ces personnes à la maison, dans mon âme. Ou Tvoar Tevar Ve'achen. » Ça veut dire quoi ?« Ou Tvoar Tevar Ve'achen. » Tu vas faire la Shrita, Tvoar Tevar Ve'achen, et tu vas préparer. Tu vas quoi ? Tu vas préparer. Rashi va dire, tu vas leur montrer qu'on enlève le guide d'Anaché. Le Ve'achen ici, c'est le guide d'Anaché. D'accord ? Alors, si tu prends maintenant le Ched de Tevar et tu le colles à Ve'achen, Hanouka.
Hanouka.
Outvoir Tevar et Outvoir Tevar, Gematria Outvoir Tevar, 44.
Comme le nombre de bougies
de Hanouka. Ça c'est du sérieux.
Ça c'est
du sérieux, ça. C'est pas moi, hein, ça c'est inconnu. Ça. C'est très connu. Bah, c'est du. C'est tout le
c'est
monde.
Tellement, c'est tellement que.
C'est super connu. Ouais. Voilà, donc, et on va. Alors, j'ai encore plein de matière, mais on va être obligé de laisser au prochain épisode. Il y a des choses.
Prochain normal.